et vous ne pouvez pas le faire quand vous n'avez pas de CST. Mais le CST, ça va au-delà du fait d'avoir un vaccin, d'être vacciné, pardon, ou d'avoir un test, etc. C'est-à-dire qu'il vous faut un smartphone qui fonctionne, ou vous avez bien compris comment tout fonctionne, ou alors il vous faut une imprimante chez vous, et il vous faut accepter de vous faire contrôler tout le temps.
Et justement,
Donc,
sur cette question du contrôle, finalement, maintenant, il y a quelque chose qui a basculé, puisqu'on est passé dans un schéma où, finalement, un peu n'importe qui, et à la base des personnes dont ce n'est pas la fonction, dont ce n'est pas le métier, peuvent et sont mandatés pour contrôler d'autres personnes. Hein. Bon, je pense aux patrons, aux serveurs d'un établissement qui sont chargés de contrôler les clients, par exemple. Est-ce que de telles pratiques sont une telle pratique est de nature à modifier, selon vous, notre société en profondeur?
oui, bien sûr, bien sûr. Ça aussi, c'est les fondements de notre société, c'est-à-dire que tout le monde est égal, les citoyens sont égaux, chacun fait ses affaires dans son coin, personne ne va embêter son voisin, et s'il y a un problème, on fait appel aux autorités. Ce sont seulement les personnes qui sont assermentées avec l'autorité et compétentes qui peuvent contrôler. Et là, on a un peu tout le monde qui effectivement peut contrôler. Vous avez ce drame qui a eu lieu le premier week-end, en fait, où le CST a été mis en place à Bruxelles, où un tenancier de bar a été poignardé par un client qui ne
Oui,
voulait pas être contrôlé.
c'est ça.
Voilà, et donc c'est effectivement très problématique, et c'est un principe de base, hein, c'est un principe de
Oui,
base
oui,
de
oui.
la société. Et ça crée effectivement une société où... alors, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que vous dites vous avez dit très justement, les gens sont un certain nombre de personnes sont mandatées pour faire ça, mais en fait, on leur donne même pas la possibilité de le faire. Ils sont obligés de le faire.
Oui.
C'est-à-dire que s'ils ne font pas ça, l'État les punit. Ils peuvent avoir une amende et se faire fermer leur établissement. Donc, on oblige de par la loi des gens qui ne sont pas habilités à faire ça à faire ces contrôles.
Oui, tout à fait. Et donc ça pose un problème démocratique. Et donc sur le plan justement de la démocratie, le PASS ou le CST a été finalement activé en vitesse sans véritablement avoir l'aval du Parlement, hein, ou en tout cas pas d'une manière réfléchie et qui rentrerait dans un schéma de débat normal du Parlement. Il faut quand même se poser des questions par rapport à ce qu'il advient de l'état de droit dans un tel contexte.
Oui, voilà, c'est quelque chose effectivement fondamental. C'est que c'est passé officiellement au Parlement, mais ça a été fait très vite en une journée. On a
Oui.
expédié ça de manière vraiment très rapide. Mais ça, faut voir que c'est particulier à la Belgique, hein. C'est-à-dire que dans les pays voisins, ça a été beaucoup plus compliqué. En France, par exemple, pour le pass sanitaire, il y a
Oui.
eu 5 jours de débat intensif. Là, pour la prolongation. La possibilité pour le gouvernement de prolonger jusqu'en juillet,
Oui.
eh bien ça s'est passé à une voix près. Le Sénat l'a refusé, donc ils vont vraiment de nous. Mais en Belgique, on est vraiment dans quelque chose où le gouvernement décide et puis le Parlement exécute, hein.
Oui, tout à fait, oui.
C'était simplement une petite étape, alors que on voit bien que c'est pas effectivement pas quelque chose d'anodin, et ça participe à cette idée que bon voilà, c'est un système très pratique qui pose pas de problème. Oui, on peut mettre ça
Oui.
en place facilement.
Oui, on pourrait dire que la démocratie parlementaire, finalement, elle est véritablement en danger, et maintenant depuis des mois, parce qu'on a un exécutif qui devient énorme, et un parlement qui est une espèce de chambre d'entérinement, mais qui ne joue plus un véritable rôle de débat démocratique. Et donc il y a aussi une forme d'opacité qui s'insinue. Et alors, on a entendu hier que la loi pandémie allait être activée. Je ne suis pas sûre d'avoir tout bien compris en ce qui concerne la mise en œuvre de cette loi, mais il me semblait avoir compris qu'elle ne pouvait être mise en œuvre qu'en cas d'urgence sanitaire. Et donc, je me pose la question de savoir est-ce qu'on est en situation d'urgence sanitaire alors que quand même 86% de la population est vaccinée aujourd'hui. Et quant au rôle du Parlement, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce qu'on va activer la loi et puis le Parlement, il aura 15 jours pour avalider ou non cette activation? Et donc, on se dit là aussi, le rôle du Parlement, il est tenu. Et ça ressemble à une situation où on vote la confiance ou la défiance face au gouvernement, mais on ne discute plus le bien fondé des mesures et la situation telle qu'elle est.
Oui, alors la loi pandémie, effectivement, le gouvernement peut l'activer quand il veut, et le Parlement doit ensuite le faire a posteriori. Mais ce qu'il y a, c'est que la loi pandémie, apparemment ils vont le faire, mais ce n'est pas prévu pour ça, la loi pandémie. En pandémie, comme vous l'avez dit, 86% de la population est vaccinée. On sait à quoi on a affaire. En pandémie, ça a toujours été prévu pour une nouvelle maladie, en fait, ou quelque chose dont on ne maîtrise pas du tout les choses. Aujourd'hui, vous regardez, effectivement, il y a une explosion du nombre de cas. Il n'y a pas une explosion des hospitalisations. Il n'y a pas le système de santé n'est pas en danger. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'on a à la fois l'activation de cette pandémie. Et à la fois des discours à la fois politiques et des scientifiques qui disent « mais écoutez, il ne faut pas s'inquiéter, oui, il va y avoir un peu plus de personnes à l'hôpital, mais on va passer les choses comme ça et ça va passer ». Mais voilà, je veux dire, la loi pandémie, c'est quelque chose qui est une espèce de bombe atomique qui permet de faire énormément de choses de la part du gouvernement. Mm-hmm. Et là, on le fait de manière quand même assez légère, je pense pour des questions plus juridiques, parce que tous les décrets, etc., qui supposent le CST, ont une base juridique qui est assez fragile, apparemment.
Oui. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension communautaire dans la mise en œuvre de la loi pandémie? Parce que c'est le fédéral qui reprend la main.
Oui, tout à fait. C'est une manière de... Effectivement, le fédéral reprend la main, alors qu'on passait à quelque chose de régional. Alors, en quoi c'est communautaire? C'est comment... Je pense qu'on est revenu dans le communautaire de toute façon. Hein, mais, mmh. Et déjà depuis quelques temps, et depuis le moment où on a décidé que tout était de la faute de Bruxelles et qu'il fallait que Bruxelles se dépêche de vacciner, etc. Alors, donc voilà, je veux dire, depuis la fin de l'été, on est revenu de toute façon dans le communautaire. Là, la reprise en main du fédéral, c'est aussi une vision qui s'intéresse exclusivement à la hausse du nombre de cas et pas à ce qui se passe dans les hôpitaux et pas au nombre de gens qui sont vraiment malades. Mmh. Voilà, parce qu'effectivement, si on prend le nombre de cas, ça remonte partout. Mais si on regarde les hôpitaux qui ont un petit problème, c'est pas en flanc que les hôpitaux sont en risque, en fait.
Oui.
Et justement, peut-être encore une question là-dessus pour ce qui est de l'activation de la loi pandémie. Est-ce qu'à votre avis, est-ce que là, il y aurait une possibilité d'introduire un recours ou en tout cas une action judiciaire? Bon, il y a des actions judiciaires qui ont été introduites, mais là, c'était par rapport... Par rapport notamment au pass et aux données privées, mais ici, oui. Par rapport à cette non-pertinence, je dirais, dans la situation de la loi pandémie, est-ce qu'il y aurait un angle par lequel il y aurait une possibilité, je dirais, d'introduire un recours, selon vous?
Ça, je ne sais pas. Je crois que la meilleure manière de critiquer l'activation de cette loi, c'est de dire que... Comme je le disais, les circonstances ne sont pas réunies pour activer cette loi parce que il n'y a pas de danger immédiat qui font que, on peut continuer à avoir des restrictions mineures et à donner des conseils aux gens de prudence, etc., sans forcément aller si loin. Là, il n'y a pas de. Il faut rappeler un certain nombre de choses aussi, hein, c'est-à-dire que sur 2021, on est globalement en sous-mortalité. Et si on prend toutes les maladies, tous les types de maladies qui existent, le Covid, c'est la cinquième cause de mortalité sur 2021 en Belgique. Uh-huh. Donc il faut relativiser tout ça et se dire, bon, est-ce que vraiment pour cette maladie, on doit continuer à faire des choses, à avoir autant de restrictions et à tordre l'état de droit comme on le fait?
Oui, c'est ça. C'est comme le responsable de l'OMS, le secrétaire général de l'OMS qui disait il y a quelques jours encore, on mettra fin à la pandémie lorsque les politiques auront fait le choix de mettre fin à la pandémie, quoi. C'est un peu dans ce sens-là qu'il voulait dire les choses aussi. C'est que, bon, ben voilà, quoi. C'est aussi une question de décision politique et pas uniquement sûrement pas uniquement une question de virologie.
Oui. Et la particularité, si on revient au CST, c'est que il y a à peu près aucun expert qui soutient le CST. Hein.
Oui, c'est vrai.
C'est ça qui est très, très nouveau. Hein. Ouais. Et il y a même Stephen Van Gucht, qui est quand même le porte-parole du SPF fédéral au niveau néerlandophone, qui dit que le CST, en fait, c'est très dangereux parce que les gens sont vaccinés, ils croient qu'ils sont protégés, et puis ils enlèvent le masque, ils font n'importe quoi. Et donc, je caricature de façon provo, mais voilà, en gros, c'est de dire il vaut mieux continuer à garder le masque et à être un peu prudent. Mais les politiques font autre chose. Hein. C'est-à-dire on a une déconnexion vraiment là-dessus.
Ouais. C'est vrai.
Je vous interromps un tout petit peu. On va faire une petite pause musicale et on reprend ces échanges passionnants juste après. Donc ça va être un slam de Lucie, la virée du virus.
C'est un virus rusé, une maladie médiatique, santé usée, population qui panique. Attention, décision, suppression, sous pression, trop de questions, peut-être trop peu d'acceptation. Rythmer une notification, y'a que dans le PC, quelle action. Plus de peur que de sort, plus de rumeurs que de mort. Les gens bouffent du négatif, puis sont testés positifs. JT, radio, info, c'est addictif, le corona c'est corrosif. Dans ce bal masqué, tout devient plus risqué. Nos relations sont confisquées, ces mesures font qu'empirer. À se demander s'il sera encore permis de respirer. On dit tout et son contraire, c'est de plus en plus tordu. Comment croire les experts si eux-mêmes sont perdus? Pour Madame l'épidémie, nos amis sont des ennemis. Et la seule certitude, c'est qu'il n'y aura pas de vaccin contre la solitude. Dans le jeu de l'absurdité, on est les pions de la société, mais ses faiblesses sont démasquées, ce fonctionnement se fait tester. Dans ce monde en mutation, agitation, pression, dépression, j'ai l'impression d'être dans une science-fiction. Mais quand ça apprend-on de programmes télévision? Qui croirait qu'un virus d'un micromètre impacte autant d'êtres sur la planète? Avec tout ce qu'on a vécu, tous ces projets tombés à l'eau, certains sont vaincus, ont plus un écu, ou encore plus pécu. Mais je suis convaincu, trop peu de boulot, on est tous au bout du rouleau. Covid-19, comme du trop vide, dans du trop neuf, pour du made in China, ça tient vachement longtemps, un peu trop résistant. Enfin, made in China, j'irais plutôt made in media. Si tu tous te rejettes pour un virus, ça en jette. Hôpitaux bouqués, mais Facebook a grimpé. Mais dans cette folle réalité, gratitude pour ces héros de l'actualité, médecins, infirmiers, ceux qui se battent pour rendre la vie moins compliquée, puisque le masque m'empêche pas de m'exprimer. Merci pour cette solidarité. Tout ce qu'on vit, ça vide nos poches. Mais dis combien on aime nos proches. Accroche-toi dans ce tempo à l'accroche. Et si la vie t'appelle, vas-y décroche. Déconfine ton sourire, lui aussi est contagieux. Malgré ce qu'on peut souffrir, t'empêche pas d'être heureux. Désinfecte tes peurs et mets tes doutes en quarantaine. Dans cette mer agitée, tu resteras le capitaine. Alors tiens bon, reste focus, on va le virer ce virus.
Et c'était donc la virée du virus par Lucie, 16 ans. Vous écoutez Jeune Radioactif, passe et impasse de la politique sanitaire. Vincent Laborderie, la semaine dernière, vous étiez présent lors de notre webinaire d'InfoJeune Laeken. Vous avez dit que le pass sanitaire créait une situation de confinement sélectif. Pouvez-vous préciser ce propos et qu'est-ce que vous entendez par là?
Oui, bah, tout simplement, alors, ça dépend ce qu'on a fait de confinement. Hein. C'est-à-dire que je me référais au confinement tel qu'il a plutôt été fait à l'automne de l'année dernière, c'est-à-dire on était autorisé à sortir de chez soi, mais toute une série d'activités était fermée. Ben le CST, ça signifie que vous avez toutes ces activités qui sont fermées pour les gens qui ne sont pas vaccinés et qui n'ont pas le loisir et l'argent de faire des tests à chaque fois qu'ils veulent faire cette activité. Donc très concrètement, aujourd'hui, les restaurants, les cafés, les bars le sport, tout ça est fermé aux personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc c'est voilà, c'est un confinement sélectif. Et vous avez là, au Codeco, c'était hier, le Premier ministre qui dit, bon, on ne va pas fermer les secteurs, donc tout reste ouvert, tout va bien. Oui, c'est ouvert, ça reste ouvert, effectivement, mais pas pour tout le monde. Mais comme le magasin est ouvert, comme les choses sont ouvertes, eh bien, on fait comme si c'était ouvert. Sauf que, voilà, au-delà de l'aspect discriminatoire, eh bien, il faut aussi se poser la question de la fréquentation de ces lieux. On verra dans quelques semaines, probablement, des chiffres sur la baisse de fréquentation dans l'Horeca. Voilà.
Effectivement, je pense qu'Éric, tu as une question également.
Oui, mais c'est pour revenir à la vaccination elle-même. Bon, on sait très bien que les populations du Nord, enfin les gouvernements du Nord se sont empressés, je dirais, à mettre une mainmise sur les vaccins pour les populations d'Europe, d'Amérique du Nord, ou enfin, tout ce qu'on appelle le Nord, entre guillemets, et au détriment, évidemment, des pays pauvres. On n'a pas une vision très claire, en fait, de ce déséquilibre, mais pourtant, déséquilibre, il y a, puisque les populations, par exemple, en Afrique, sont assez peu vaccinées. Quel est votre constat par rapport à ça, ou comment voyez-vous les choses dans l'actualité, et comment surtout, quelle serait, je dirais, votre recommandation par rapport à ça pour essayer de changer la donne, quoi, parce que là, il y a un déséquilibre, il y a quelque chose, il y a une inégalité flagrante et qui pourrait effectivement devenir très préjudiciable encore plus que maintenant en termes, je dirais, sur le plan social et humanitaire global, quoi.
Oui, non, mais moi, je vais réagir surtout au discours qui a été développé, qui est encore développé, qui consiste à dire que quand on n'est pas à risque en Belgique, se faire vacciner, on fait ça par solidarité pour les autres. Mmh. Et moi, je trouve ça vraiment fascinant qu'on dise c'est par solidarité, sachant que, désolé, le fait de faire vacciner des petits Belges de moins de 30 ans, parce que c'est à partir de moins de 30 ans que l'effet du vaccin est quand même très réduit, plutôt que d'envoyer ça dans les pays qui en ont le plus besoin, où les personnes à risque ne sont même pas vaccinées, appeler ça de la solidarité, ça, c'est quelque chose qui me sidère. On voit vraiment où est-ce qu'on en est dans la conception de la solidarité de certains qui, la solidarité s'arrête aux frontières de la Belgique et au-delà, il ne se passe rien.
Ouais.
Et faut voir, ils ont changé d'avis entre-temps, ils sont en plein football panique, mais lundi, avant-hier, le gouvernement flamand avait décidé qu'on devait mettre une troisième dose à tout le monde à partir de 12 ans. Voilà.
Ouais.
Voilà où on en est. Mais comment en sortir, ça, j'ai pas de vraie solution, mais c'est plutôt de, effectivement, ce que je viens de dire, c'est-à-dire de vacciner les personnes, d'avoir une vision globale mondiale et de dire qu'on va vacciner les personnes à risque et pas les gens qui ne risquent rien. Après, quelle est la définition d'une personne à risque, ça, c'est pas à moi de la donner. Mais... Et que les doses de vaccins qu'il faut qu'on a vacciné ces personnes-là, qu'elles sont protégées, eh bien, on peut avoir une vision globale et envoyer ces doses dans les pays qui en ont besoin. D'autant que dans ces pays-là, il n'y a pas forcément d'hôpitaux pour soigner les gens qui tombent malades et qui ne sont pas vaccinés.
Mmh. Oui, tout à fait. Et puis, on sent... Donc Yves Kopitters aussi mettait l'accent lors du webinaire sur le fait de faire vacciner, de proposer la vaccination aux personnes à risque. Mais on a vraiment le sentiment qu'il y a une pression énorme qui se déploie pour que les jeunes se fassent vacciner, mais encore aussi les enfants. Et donc pour les enfants, pour les plus jeunes d'entre nous, le rapport bénéfice-avantage n'est pas du tout assurée. Et donc, que pensez-vous ? Est-ce que vous n'avez pas de boule de cristal, mais est-ce que vraiment c'est ça vers quoi on va, vers une vaccination des enfants également ?
Oui, mais les enfants sont déjà vaccinés en Belgique à partir de 12 ans.
Hein. Je pensais aux plus petits, hein, aux primaires.
Oui, oui, on verra ce qu'il en est, mais on est dans cette logique-là. À partir du moment où on croit qu'il faut vacciner massivement le plus possible pour éviter la propagation du virus, c'est cette logique-là. Et pourtant, les faits depuis deux semaines, les faits donnent totalement tort à cette vision. Parce que si c'était vrai, une région comme la Flandre, où il y a 92% de vaccinés, il n'est pas possible d'avoir une explosion épidémique comme ça, comme on a aujourd'hui. Donc, cette vision est totalement erronée, mais ça n'empêche pas qu'elle se mettra peut-être en place. Mais sur le bénéfice-risque, il est tout à fait clair que, bon, j'ai dit 30 ans pour être prudent, mais on pourrait même dire en dessous de 40 ans, le bénéfice de se faire vacciner contre la Covid, le bénéfice d'être protégé contre la Covid, il est quasi nul. Si on prend comme risque, voilà, le risque c'est la mort, le risque c'est d'être hospitalisé de manière, dans les soins intensifs, etc. Si on dit le risque ce qu'on veut éviter c'est d'avoir une fièvre pendant une semaine, voilà. Mais si on prend des vrais risques en termes de létalité, il n'y a à peu près aucun intérêt à se faire vacciner quand on a moins de 30 ans. Alors, il y a toujours un risque qui existe, mais il y a aussi un risque de se faire vacciner. Donc, faire la balance entre un risque infinitésimal d'un côté et un risque infinitésimal de l'autre, bon, on peut toujours le faire, mais en fait, voilà, ça n'a pas d'intérêt.
Tout à l'heure, Eric évoquait le fait que, bon, on est face à une pandémie, donc ça a une dimension mondiale. Et les vaccins, comme vous le disiez également, la solidarité, elle s'organiserait juste autour de notre nombril, mais certainement pas par rapport à l'Afrique ou par rapport à d'autres continents. Il y a un autre problème par rapport à ça, c'est par rapport au fait qu'on ne cherche pas à lever les brevets. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça ? Comment se fait-il que, d'une part, on a permis aux sociétés pharmaceutiques de se défausser de toute responsabilité quant à d'éventuels effets secondaires du vaccin et qu'en même temps, on leur permet, il n'y a pas de levée des brevets alors qu'on est dans une situation où on pointe le caractère, les gens qui ne seraient pas solidaires, les égoïstes, les non-vaccinés, etc. Mais là, il n'y aurait curieusement aucune responsabilité des firmes pharmaceutiques et du politique.
Oui, ben, en fait, on est dans une situation où on a l'impression que les gouvernements sont un peu pieds et poings liés face aux fabricants de vaccins. Et en tant que fabricant de vaccins, il faut bien se rendre compte qu'on est face à un duopole qui est en fait un monopole entre Pfizer et Moderna. Et donc, ces firmes ont un produit qui est très intéressant, qui est très important, et donc elle dicte un peu leurs règles du jeu. Mais je voulais revenir sur ce qu'on disait, ce qu'on rêvait, ce qu'on imaginait en mars 2020 sur le monde d'après, où on allait arrêter le libéralisme fou, et on allait, les États allaient reprendre le contrôle, parce qu'on se rendait compte qu'on était trop dépendant par rapport à la Chine, etc. En fait, on n'a rien fait de tout ça. Si on était dans cette logique, effectivement, on aurait levé les brevets, quitte à payer Pfizer et Moderna quelques milliards d'euros pour ne pas les spolier ou je ne sais quoi. Mais on aurait levé ces brevets et puis on fabriquerait des vaccins à la chaîne, tout le monde en fabriquerait et on n'aurait pas le problème dont on parlait auparavant par rapport aux pays tiers-monde. L'État post-pandémie n'est pas un État planificateur ni qui s'affirme face aux firmes privées. C'est plutôt un État policier qui, finalement, est faible avec les forts et fort avec les faibles.
Ce qui est la définition du néolibéralisme, en fait. Enfin, c'est un peu le credo du néolibéralisme fort. Fort avec les faibles et faibles avec les forts, quoi. Mais justement, par rapport à ça, est-ce que on a le sentiment qu'il y a quelque chose, et ça, vous l'avez expliqué vous-même lorsque vous aviez parlé de la bascule de la société, enfin, non, de la logique sanitaire vers une logique sécuritaire ou une logique de contrôle, quoi. Est-ce que, selon vous, bon, c'est sans virer évidemment dans le complotisme, mais est-ce que selon vous, il y aurait non pas une espèce de planification organisée et préprogrammée, mais est-ce que on ne s'achemine pas tout doucement vers des formes de contrôle qui amènent un régime politique, des régimes politiques en Europe beaucoup plus durs. C'est ce qu'on peut quand même, c'est des tendances qu'on observe quand même, quoi. Je ne pense pas uniquement à la Hongrie, mais je veux dire, par exemple, ce qui est en train de se passer en France durant cette période préélectorale, la France se droitise quand même extrêmement. Je ne sais pas, quelle est votre réflexion par rapport à tout ça ?
Oui, ben moi je trouve qu'il y a un lien avec tout ça, hein, c'est-à-dire c'est toujours le commissaire et la peur de l'autre. Mmh. C'est-à-dire que dès le départ avec cette crise Covid, on s'est mis à avoir peur de l'autre qui allait nous contaminer. Aujourd'hui, on a cette peur du non-vacciné, et non seulement la peur, mais en plus la stigmatisation parce qu'il a fait un mauvais choix égoïste. Ouais. Et voilà, ça se calque très bien avec le discours d'extrême droite, hein. C'est toujours la faute des autres, c'est la faute de ceux qui pensent différemment. Et il y a quelque chose d'assez remarquable en Belgique, en particulier à Bruxelles, c'est que ce sont les quartiers et les populations qui sont déjà stigmatisées, qui sont encore plus montrées du doigt pour le fait qu'elles ne sont pas vaccinées. Mmh. Et donc vous avez tout ça qui se mêle, en fait. Et moi, l'extrême droite n'a pas repris ça explicitement, mais est-ce qu'ils ont besoin de le faire, finalement? Ça renforce l'idée que, finalement, voilà, il ne faut que poser des problèmes, que ce soit d'insécurité, de délinquance, tout ce qu'on veut, et maintenant de ne pas se conformer en refusant de se vacciner. Donc on est dans quelque chose comme ça, mais surtout c'est le fait, je trouve, au-delà de ce raisonnement, c'est effectivement d'accepter le contrôle.
Oui.
Mmh. Et donc moi je me souviens, il y avait eu à juste titre à l'époque, quand on parlait des visites domiciliaires pour les personnes qui hébergeaient des migrants illégaux, il y avait eu toute une levée de boucliers là-dessus, c'était pas possible, etc. Bon, aujourd'hui, si vous respectez pas votre quarantaine, la police vient chez vous, hein. Voilà. Donc on a franchi un certain nombre de choses et tout ça, on peut le reprendre à d'autres.
Oui, oui.
Sur d'autres
sujets. Loin l'envie de jouer les flics, mais
ouais.
On a encore une petite chanson, une ouais. Petite pause musicale.
Ok, donc, on reviendra après.
Celle-ci, tout à fait, Eric. Et donc c'est Mal à ta vie, des mots, juste pour mettre en musique les mots d'adolescent. Mal à ta vie.
Désolé. Non, ça va.
Si tu te sens lasse, voir un peu dans l'impasse, ras le bol du miroir, ou lâchant tout espoir. Si on se moque de toi, ces mots qui te déchirent, des photos sur Insta, le soir tu penses au pire. Ça se faille dans la maison, c'est l'embrouille sans raison, un fantôme déambule, des acteurs funambules. Si tes amis te disent, faut parler t'aimer, tristesse sur la banquise, la fonce momentanée. Mal à ta vie, tu sans pourquoi se glissent de bras en bras d'un regard qui jaillit de passion te nourrit. Si tu te sais réveillé, tu te sens entouré, accusé de réception de tes douleurs, tes déceptions. Une vérité t'attend, toutes les autres sont bien. De ton histoire, tu es reine, ne pas finir en Cobain. Si tu ris comme tu pleures, tu souris au malheur. En toi s'offre une lueur, stop le mal à ton bonheur. Mal à ta vie, tu te sens sans envie. Mal à ton corps, on rit toujours de ton genre. Mal à tes mots, viens nous parler plus tôt. Retrouve cette liberté au lieu de te maudire. Mal à ta vie, tu te sens sans envie. Mal à ton corps, on rit toujours de ton genre.
C'était donc Mal à ta vie, chanson née de la rencontre entre Maureen, talentueuse jeune fille de 17 ans, et l'équipe de l'unité de crise de Genève. Durant la période de confinement, Maureen a composé et interprété cette chanson sur un texte de Ludovic Bornand, psychologue, et de la docteure Anne Edan, responsable de cette unité. Vous êtes toujours sur Radio Panique pour Jeunes Radioactifs, passer un passe de la politique sanitaire, c'est la troisième partie, et je pense qu'Eric, tu avais une intervention à faire.
Oui, en fait, moi, je voulais juste revenir sur ce qu'on disait avant la chanson. Je me rappelle, Vincent Labourderie, donc, lors du webinaire, vous aviez parlé, vous aviez fait le lien avec l'ouvrage de Michel Foucault, « Surveiller et punir ». Et si je me rappelle bien, dans « Surveiller et punir », Michel Foucault... nous parle du passage qui s'est opéré à peu près au milieu du XXe siècle. D'une part, avant ça, on avait affaire à une société disciplinaire, comme il disait, et on est passé, pour des tas de raisons aussi liées au développement technologique, au développement de la société de l'information, à une société de contrôle. Et donc, est-ce que, selon vous, est-ce que ce qu'on est en train de vivre actuellement, ce serait une confirmation et une insistance de la prophétie, je mets prophétie entre guillemets, hein, évidemment, de Michel Foucault dans Surveiller et punir? Plus personne.
Vincent Labourderie, est-ce que vous êtes toujours là?
Oui, pardon, je suis là, excusez-moi.
Oui.
Voilà. J'avais effectivement évoqué Foucault à l'origine dans une chronique pour parler de l'État policier. C'est qu'en fait, avec ça, les États reviennent à ce qu'ils savent faire, en fait. Comme apparemment, ils ne savent pas gérer une crise sanitaire, ils essaient de gérer le comportement des populations. Mais effectivement, on arrive dans une société de contrôle, mais qui est, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est plus au XXe siècle, et moi je suis très sceptique sur la capacité des États, des autorités à avoir quelque chose d'effectif en termes de contrôle, quoi. Et donc je réponds pas directement à votre question parce que c'est difficile à dire de quoi sera fait l'avenir, mais quand même, je parle juste de ma petite expérience depuis que le CST est en place à Bruxelles. Je suis allé dans 5 cafés différents. Il y en a 2 sur 5 qui m'ont demandé le CST. Donc voilà. Et vous allez avoir toute une série. Et, Et moi, j'ai des amis qui sont allés en vacances cet été en Allemagne, en Autriche, où les restaurants et les bars sont soumis à pas sanitaire. Et ça a été très peu respecté, donc même dans des pays où on respecte quand même la loi. Donc je crois que le contrôle, il y a un côté simplement affichage, en fait, de dire voilà, regardez, on fait quelque chose parce que on a un problème, donc on a trouvé une solution, et voilà. Mais c'est comme le fait de mettre le CST en Flandre quand 92% de la population est vaccinée. Qu'est-ce que ça change, à part d'exiger des gens qui téléchargent ça et qui montent leur GSM. Donc il y a une illusion du contrôle aussi, hein, c'est-à-dire que oui, je crois que l'État est moins en capacité, finalement, peut-être aujourd'hui, de contrôler qu'au milieu du XXe siècle, finalement.
Mmh. Oui, mais si le contrôle ne sera pas systématique, il y a vraiment un risque d'arbitraire encore plus grand, alors. Oui. Parce que c'est vis-à-vis des populations les plus fragiles que ce contrôle va être le plus invasif.
Oui, tout à fait. Il y a le risque de little girl ou voilà, donc qui systématiquement on contrôle les gens dont on n'a pas envie qu'ils rentrent et quitte à être de mauvaise foi aussi en disant ah ben désolé votre QR code ne marche pas parce que c'est aussi très facile de faire semblant que l'application ne fonctionne pas ou je ne sais quoi, hein. Donc voilà, il y a aussi tout l'aspect fuite de données échange de QR code, piratage. D'ailleurs, en Russie, ils ont essayé de faire un pass sanitaire, ça a duré à peu près 3 semaines. Parce qu'il y avait trop de fraude. Voilà, on trouvait des QR codes valides, tout à fait valides, à 3 dollars. Donc, ça n'a jamais fonctionné. Donc, il faut voir comment les choses se passent. Mais ouais, je trouve que il y a beaucoup d'affichage, en fait, et beaucoup de perturbations, d'empêcher les gens de vivre leur vie normalement. Mais à l'arrivée, le vrai contrôle, je ne sais pas si on a du vrai contrôle, on a plutôt des manières d'embêter les gens au quotidien.
Ce serait plutôt une mise en scène du contrôle, quoi. On peut faire savoir qu'on les contrôle, et le fait de faire savoir ça aurait en soi déjà une incidence sur le comportement, parce que bon, ça a une action quand même, ça pèse psychologiquement quand même aussi. Sur le psychisme des gens, forcément. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais vous parliez d'illusion du contrôle, mais vous aviez aussi parlé de l'obsession du contrôle. Et donc, cette obsession elle-même produit quand même des effets délétères.
Oui, bien sûr. Et c'est... mais c'est aussi révélateur, je trouve, de dirigeants qui en fait ne maîtrisent pas du tout la situation.
Oui, ça donne le sentiment qu'ils sont impuissants, hein, qui gesticulent dans tous les sens, qui renvoient la responsabilité aux individus, mais qu'en fait, eux-mêmes, vous avez utilisé l'expression football panique, c'est vraiment ce sentiment-là, et ça décrédibilise complètement, en tout cas aux yeux de beaucoup. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent... Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent maintenant, je m'en fous, je les crois plus, j'y crois plus. Et c'est un danger pour la démocratie, ça aussi.
Oui, c'est clairement. Mais et là, spécifiquement, on a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire que toute la campagne de vaccination disait le vaccin, c'est la liberté, vaccinez-vous, on viendra comme avant, etc. Ben, résultat, c'est non. On a un taux de vaccination énorme, à part à certains endroits à Bruxelles. Ben, on revient comme l'année dernière, finalement, hein, pas avec la même gravité, mais... Donc on a imposé le CST en disant, grâce au CST, on ne mettra plus de masques, et maintenant, ben, on va avoir le CST et les masques, parce que finalement, c'est pas... ça ne fonctionne pas. Donc il y a effectivement une démonétisation de la parole publique et aussi de la norme et du respect de la norme par rapport à ce que j'indiquais. C'est-à-dire que les exigences qu'ils posent sont en fait impossibles à réunir. C'est-à-dire qu'on peut pas... Évidemment qu'il y a plein de gens qui ne vont pas contrôler le CST. Évidemment. Il y a plein d'endroits, plein de cafés où le CST ne sera pas contrôlé. Mais ça crée une insécurité supplémentaire. Hein. C'est-à-dire que finalement, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Et il y a la possibilité, en théorie, je ne sais pas entendu parler de cas ou quoi, d'avoir des contrôles de police à l'intérieur des établissements pour vérifier qu'on a bien demandé le CST à tout le monde et que tout le monde a bien son CST en ordre. Donc je voilà, là ça crée une insécurité. C'est-à-dire moi, aller au restaurant en se disant tiens, peut-être que la police va arriver et va contrôler mes affaires et va mettre dehors quelques tables parce que voilà, c'est... bref, voilà.
Ouais. En termes d'atmosphère, c'est lourd. Hein.
Ouais. Oui, oui.
Je crois que Julien avait une question.
Oui, mais c'est pas forcément en lien avec tout ce qu'on vient de parler, mais quand même. Donc, en fait, Vincent Labordry, j'avais une petite question sur les actions judiciaires qui sont actuellement en cours. Est-ce que vous savez où on en est et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces actions ?
Les actions judiciaires, oh, j'en sais peut-être pas beaucoup plus, mais non, il y a des actions, il y a deux séries d'actions, en fait, à ma connaissance. Il y en a une sur la sécurisation des données. Mmh. Où il y a une brèche dans les données, dans le stockage de données qui a été repérée et qui est vraiment très problématique et qui apparemment, on est qu'au début, mais ferait tache d'huile en Europe, c'est-à-dire que la brèche qui existe en Belgique serait un petit peu pareille partout, évidemment. Ils ont tous fait sur le même modèle. Et après, il y a recours par rapport à la proportionnalité des mesures et donc sur leur efficacité en disant voilà, c'est totalement disproportionné. Et là, ça va se multiplier. J'ai vu aujourd'hui la fédération du fitness qui va apparemment introduire un recours. Et voilà. Et ça, c'est encore plus évident parce que ce qui est important de voir, on mesurera ça. Mais on a eu pour l'instant aucun frémissement, aucune relance de la vaccination, alors que c'était l'objectif affiché. On a pris exemple sur la France où, effectivement, dès l'annonce du président Macron, le lendemain, la semaine qui allait, il y a beaucoup de gens qui allaient se faire vacciner. En Belgique, c'est pas le cas. Donc voilà, à partir du moment où on prend une mesure et que les objectifs ne sont pas atteints, c'est totalement disproportionné, évidemment.
Mais à partir du moment où on n'obtient pas les objectifs, on n'arrive pas à obtenir les objectifs et atteindre les objectifs qu'on veut, y a des risques que, dans la logique qu'on connaît maintenant, on continue à faire un peu plus de la même chose. Et je pense à la France, donc vous dites malgré tout qu'ils auraient obtenu un plus en termes de vaccination, mais on est quand même dans une situation où on s'apprête à valider, à étendre le pass sanitaire jusqu'en juillet 2022. Vous aviez dit en Belgique, les conséquences de ce pass, si ça dure 3 mois, ce sera à mesurer. Mais quid si ces systèmes se mettent en œuvre, on connaît déjà 2 ans. Deux années exceptionnelles, avec des mesures exceptionnelles, et puis on continuerait par des mois et des mois de CST, mais où va-t-on ?
Oui. Je pense que le grand enjeu, c'est effectivement, est-ce que le CST sera prolongé au-delà du 15 janvier en Belgique ? C'est-à-dire, est-ce que... et de ce point de vue-là, la réglementation bruxelloise et wallonne n'est pas la même, le décret... L'ordonnance bruxelloise et l'écrémoyant ne sont pas les mêmes. C'est plus facile de prolonger à Bruxelles qu'en Wallonie.
Ah oui.
Alors là, on repasse en phase fédérale, donc ils vont voir ce qu'ils font, etc. Mais voilà, la question, c'est de savoir est-ce qu'on s'arrête à un moment ou est-ce qu'on prolonge ? Et si on prolonge, on change vraiment de société. Sinon, si on s'arrête, on peut espérer qu'on referme une parenthèse.
C'est ça. Et justement, pour tous ceux qui ne souhaitent pas verser dans cette société du contrôle, dans cet état policier, comment est-ce que, c'est une question un peu bateau, mais comment est-ce que les forces peuvent se fédérer et comment est-ce que les résistances peuvent se mettre en place ? On sent des frémissements un peu partout, mais pas une résistance opérationnelle et à la hauteur des enjeux. Est-ce que vous avez des pistes, par exemple ?
Oui, moi juste... Allez, vous dire que les manifestations, j'y crois pas du tout, déjà. Voilà, en France, on en fait beaucoup, ça n'a rien fait. En Belgique, il y en a beaucoup moins déjà, et puis c'est moins dans la culture belge. Par contre, ce qui est tout à fait dans la culture belge, c'est de contourner la règle, en fait. De contourner la règle, de créer une espèce de société alternative, enfin, société, c'est un grand mot, mais en tout cas, des activités alternatives qui ne sont pas soumises à CST. Parce que en fait la règle pour les événements privés c'est 50 personnes. Donc vous pouvez très bien faire une pièce de théâtre chez vous avec moins de 50 personnes ou faire un bar clandestin, c'est peut-être euh, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, des choses où les gens se réunissent et boivent ce qu'ils ont envie de boire.
Un club privé.
Voilà, tant que c'est moins de 50 personnes, vous pouvez le faire. Et de même que si vous privatisez un bar un soir, il n'y a pas de contrôle de CST. Parce que c'est un événement privé. Et donc, on va peut-être avoir un développement comme ça d'activités alternatives, parallèles. Et ça, à un moment, ça peut faire bouger les choses, parce que s'il n'y a plus personne qui va dans l'Horeca, bah, oui, il va quand même y avoir un problème. Il va clairement y avoir un problème.
D'accord.
Donc, moi, je crois plus à ça. Et puis après, pour fédérer, ça, c'est... Bon, le problème, c'est, oui, il n'y a pas d'initiative centrale ou d'organisation vraiment anti-CST. Je pense que c'est quelque chose qu'on observe depuis le début de cette crise où bon, le problème, c'est qu'il y a, je crois qu'il y a toute une frange anti-vax complotiste qui existe, qui a fédéré beaucoup d'énergie à un moment, mais qui est une impasse, évidemment. Mmh. Et donc, voilà, je pense que toute difficulté, c'est de trouver quelque chose entre les anti-vax et le discours gouvernemental.
On va faire une nouvelle pause musicale avec Avant toi Corona, chanson sur la Covid-19 interprétée par des enfants. Okay. C'était donc Avant toi Corona. Et voilà, notre émission touche tout doucement à sa fin. Gène Radioactive se termine. Si tu veux obtenir des infos supplémentaires, tu peux taper sur ton clavier www.inforjeune.eu ou téléphoner au 02 421 71 30. 02 421 71 30.
Avant de se quitter, je tiens à remercier InfoJeune Lycan pour sa participation via Chantal et Eric. Merci Eric et Chantal.
Merci tout le monde. Merci Vincent Laborderie.
Merci à toutes et à tous.
Je tiens également à remercier Radio Panique pour le studio, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et bien sûr, monsieur Vincent Laborderie qui nous a accompagnés tout au long de l'émission. Merci, monsieur.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir. Et on se retrouve le 24 novembre pour de nouvelles aventures de jeunes.
Sébi, avant de découvrir la chanson de la Covid, je voulais remercier mon enseigne Lumineuse de m'avoir envoyé ce super néon que j'ai moi-même personnalisé. Il est vraiment trop beau et super bien emballé pour la livraison. Alors n'hésitez pas à commander le vôtre via leur site qui se trouve en description de vidéo et profitez dès maintenant d'une réduction immédiate avec le code promo SEBI20. C'est pas bien compliqué, suffit de j'ai l'hydro alcoolique et un petit peu de haine, car on l'a bien compris, on peut plus faire la fête, et au boulot ou au bureau, ça me prend bien la tête, mais c'est pour la bonne cause, pas le choix, alors je dois le mettre.
Je peux plus respirer avec ce putain de masque, rame la Covid. Je peux plus respirer avec ce putain de masque, rame la Covid. Je crois que je vais péter un câble. Je peux plus respirer avec ce putain de masque, rame la Covid. Je peux plus respirer avec ce putain de masque.